Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nos trois experts ce matin, Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, co-auteur de l'économie de l'abondance à l'économie de la rareté aux éditions Odile Jacob, bonjour.
Bonjour.
Robin Rivaton, directeur général de Stonal, je ne sais pas comment on le prononce, à la française, fondateur de Real Estate, membre du conseil scientifique de Fondapol, la fondation pour l'innovation politique, et auteur de Sourions, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP, auteur de Histoire de l'économie mondiale aux éditions Talendier. Rebonjour
Jean-Marc. Rebonjour.
Nous étions déjà ensemble ce matin dans la matinale. Cette question, est-ce que la France va prendre le risque d'intensifier les tensions commerciales avec la Chine? Bruno Le Maire veut relancer la filière photovoltaïque. Il vise les panneaux fabriqués en Chine, 4 fois moins chers que ceux produits en France. La filière, évidemment, est exsangue. Faut-il imposer une taxe carbone à l'importation ? On va commencer avec vous, Patrick Artus. Est-ce qu'il faut faire sur les panneaux photovoltaïques ce qu'on a fait sur les voitures électriques chinoises ?
Oui, alors c'est en réalité, c'est les deux solutions qui sont laisser rentrer les produits chinois ou bien taxer les produits chinois et se protéger. Ce sont deux mauvaises solutions, mais il va bien falloir choisir. Le problème de la Chine, c'est que d'abord, il y a des surcapacités industrielles qui résultent du surinvestissement chinois dans la voiture électrique, dans les batteries, dans les panneaux photovoltaïques, dans les éoliennes, etc. Et qu'il y a des aides publiques qui ne se cachent pas. Et donc, la Chine a une capacité d'exporter massivement des produits industriels très, très en dessous du prix de ces produits dans les pays européens. Et donc, assez naturellement, on a une réaction qui dit bah, et donc, il faut empêcher la destruction de l'industrie européenne ou essayer de réindustrialiser l'Europe. Et donc, on va taxer ces produits chinois. Mais d'un autre côté, si on taxe ces produits chinois, d'une part, on se condamne à maintenir cette protection jusque au long terme, parce que les aides publiques, ce n'est qu'une partie de l'avantage de prix des produits chinois. L'essentiel de l'avantage de prix, c'est des économies d'échelle, c'est la main-d'œuvre pas chère, etc. C'est l'investissement en recherche-développement dans ces produits depuis bien plus longtemps qu'en Europe, en Chine. Et donc, on va devoir subventionner les productions européennes jusqu'à tout le temps, hein, jusqu'à la fin des temps. Premier problème, et donc on n'a probablement pas les moyens de finances publiques pour faire ça. Et puis deuxièmement, il faut être sûr que nous avons des avantages comparatifs pour produire ces biens. Les cellules photovoltaïques, quels sont les avantages comparatifs de l'Europe ? On a un déficit d'ingénieurs. On n'a pas intégré la chaîne des matières premières depuis le silicium jusqu'à la cellule photovoltaïque. On a un retard de recherche-développement et donc on n'est pas légitime à se spécialiser dans ce bien. Donc je crois qu'on ne peut avoir une approche de protection que sur un nombre très limité de produits pour lesquels il y a un intérêt stratégique à ne pas dépendre des Chinois et on ne pourra pas tout faire loin de là.
Jean-Marc, ces produits, ils sont 4 fois moins chers que les panneaux fabriqués en France. C'est quand même pratique d'importer de la déflation, la désinflation dans le contexte actuel.
On importe non seulement de la déflation ou de la désinflation, mais on importe du pouvoir d'achat. C'est quand même la préoccupation essentielle des Français en ce moment, l'évolution de leur pouvoir d'achat. Et tout à l'heure, avec Marc Fiorentino, dans l'émission précédente, nous débattions sur le fait de savoir est-ce que l'entrée de la Chine dans l'OMC a été une bonne ou une mauvaise nouvelle. Donc Marc Fiorentino, je renvoie les auditeurs téléspectateurs à cette séquence, mais Marc Fiorentino disait non, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'on a détruit l'industrie européenne avec cette cette concurrence déloyale. Je dis, c'est 1000 euros par an de pouvoir d'achat à apporter aux ménages français. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors ensuite, il y a un vrai problème. Il y a deux problèmes par rapport à ce que vient de dire Patrick. Je rejoins tout à fait le fait des avantages comparatifs. Il n'y a aucune raison de considérer que on doit tout produire en Europe, on doit tout faire et qu'en particulier, l'Europe a vocation à fabriquer des panneaux solaires. Ça peut se faire ailleurs. Il y a beaucoup de produits qui se font ailleurs. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que si on considère qu'il y a un problème de monopole de la Chine, qui pour l'instant ne se traduit pas, puisque les produits que met la Chine sur le marché sont à prix cassé. Donc, mais un monopole, au bout d'un moment, ça va la conduire à être en situation d'augmenter ses prix. On fait jouer la concurrence, mais pas forcément entre le territoire national européen et le territoire national chinois. Ça peut être aussi entre l'Inde, qui n'arrête pas de dire qu'elle est tout à fait disposée à se lancer sur ce marché, le Vietnam, qui aussi pointe son nez en disant que s'il faut concurrencer la Chine, nous sommes partants. Et donc, le véritable enjeu, c'est non pas de se replier sur soi, mais au contraire, d'élargir considérablement le champ de son économie, parce que c'est des débouchés plus importants et de la concurrence entre nos fournisseurs. La dernière remarque que je ferai, c'est que sur 27 pays de l'Union européenne, il y en a 20 qui dégagent des excédents extérieurs et des excédents commerciaux. Il y a un problème, c'est que dans les...
C'est pas la France.
Exactement. Dans les 7 qui sont plutôt en situation délicate, il y a la France. Et donc, le problème de la France, c'est pas la Chine, c'est la France. Le problème de l'économie française, c'est pas la Chine, c'est la politique économique française.
Romain Rivaton, Jean-Marc nous parle de l'OMC. La Chine, en subventionnant cette activité, sort des règles de l'OMC. Elle fausse les règles de la concurrence.
Alors, on exagère énormément le sujet des aides publiques en Chine. C'est-à-dire qu'on essaye aujourd'hui de faire croire que c'est que les aides publiques. Comme l'a dit Patrick Artus, d'abord, une grande partie des capacités de production ont été destinées au marché intérieur. Aujourd'hui, la Chine est le pays qui installe le plus de photovoltaïque au monde, de manière très très importante par rapport à l'Union européenne ou même aux États-Unis, puisqu'ils installent grosso modo chaque année la moitié de tout ce qui a été installé dans le monde depuis, on va dire qu'on installe des panneaux solaires depuis 40 ans. Donc c'est juste énorme. C'est le principal débouché de ces producteurs. Ces producteurs sont en crise. Longhi, par exemple, qui est le numéro 1 mondial, qui est situé à Xi'an, a viré, on dit, entre 5 et 20% de sa main-d'œuvre, de ses 80 000 salariés, parce qu'aujourd'hui, ils ont des énormes problèmes de surcapacité, donc ils les touchent eux-mêmes, avant même de savoir si. Donc le débouché des pays occidentaux et de l'Europe n'est pas le visé principal. Le deuxième point, c'est que ce sont des usines qui sont extrêmement robotisées, de très très loin au-dessus de ce qu'on peut faire chez nous. Ils ont une chaîne de valeur qui est intégrée. C'est-à-dire qu'ils font le raffinage des matières premières, jusqu'à toutes ces choses qu'on a abandonnées. On était très contents de les envoyer en Chine. Hein. On avait des fonderies encore en Europe jusque dans le début des années 2000. On a été très contents de les déplacer là-bas. Et tout d'un coup, on dit qu'on va créer des fabricants de panneaux solaires qui vont importer les cellules de photovoltaïque et qu'on va mettre sur des panneaux solaires. Si c'est pour faire l'ultime étape de la production manufacturière.
C'est du Made in France qui n'en est pas vraiment.
Voilà. C'est comme installer la braguette, la fermeture éclair sur un jean, quoi, pour dire que c'est du Made in France. Au bout d'un moment, il faut être réaliste. Une chaîne de valeur intégrée, on ne la reconstruira pas en quelques années, en quelques trimestres en Europe. Elle est installée là-bas. Et donc, il vaut mieux, comme je partage entièrement ce qui a été dit, se baser sur quelques ressources dont on considère qu'elles sont stratégiques et pas tellement où il y a des risques de monopole avec une augmentation des prix, mais des risques de monopole où à un moment, l'adversaire, ou en tout cas le compétiteur, peut nous en priver l'accès parce qu'il a décidé dans une logique géopolitique ou dans une logique diplomatique de nous en priver l'accès. Là, on peut se dire que ces filières-là méritent d'avoir un soutien et d'essayer de recréer une filière industrielle, mais c'est extrêmement long, extrêmement coûteux. Il ne faut pas oublier que l'industrie, c'est des économies d'échelle. Aujourd'hui, quand on construit une usine, on ne construit plus du tout les usines comme on le faisait il y a 30 ou 40 ans, des petites unités déplacées sur le territoire. On construit une méga-usine qui doit servir des continents entiers. Et surtout, c'est des effets d'agglomération. Quand vous avez les 5 plus gros qui sont au même endroit, ils ont un avantage énorme par rapport au petit qui va se mettre à l'opposé. Et donc ça, cette logique manufacturière, aujourd'hui, moi je vois un discours politique qui est de dire... Il y a des aides publiques chinoises et en fait ils sont anti-concurrentiels. La réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Ils ont construit depuis 20 ans une filière. On a détruit depuis 20 ans notre filière. Et compenser cet égarement de la politique industrielle depuis 20 ans, ça va coûter des dizaines, si ce n'est des centaines de milliards pour des bénéfices, comme l'a dit Jean-Marc Lenne, qui sont extrêmement infimes pour le consommateur français, sans même parler européen.
Des réactions qui nous parviennent sur les réseaux sociaux. Le gouvernement cible les panneaux photovoltaïques pour protéger EDF en mettant des taxes, nous dit les amis européens. Selaïd nous dit « Jean-Marc Daniel pense que c'est le pouvoir d'achat du consommateur, que le pouvoir d'achat, c'est juste payer moins cher les produits, mais c'est aussi payer moins de prestations sociales, moins d'impôts, avoir de meilleurs salaires. » Jean-Marc, une autre question sur ces panneaux solaires. On nous dit « Ils arrivent de Chine avec un sac à dos carbone très très lourd parce qu'ils sont produits avec de l'électricité carbonée, parfois qui provient de centrales à charbon. Et on nous dit également, ils ont traversé une partie de la planète, donc ils arrivent forcément avec une dette carbone. Si on a le courage de nos convictions, il faut les interdire.
Oui, alors deux réponses. D'abord, une réponse à l'auditeur. C'est-à-dire qu'effectivement, le pouvoir d'achat, grosso modo, alors c'est ce que j'apprenais à mes étudiants. J'en ai un devant moi qui a été particulièrement brillant. Je leur apprenais les 10 principes de Mankiw, qui étaient, vous savez, Mankiw, c'est l'économiste qui a fait le manuel de référence. Patrick et moi, on est d'une génération où c'était le Samuelson. Les jeunes générations, c'est le Mankiw. Il résume l'économie en 10 principes. Et le principe 8, c'est que le revenu est, à la fin des fins, égal à la production. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir du pouvoir d'achat, le niveau de vie d'un pays dépend effectivement de sa capacité à mobiliser du travail et de la productivité. Et donc la France, elle mobilisera des salaires en plus si elle travaille davantage. Je crois qu'un des problèmes de la France, c'est pas la Chine, c'est le fait que la productivité n'est plus au rendez-vous et que pour compenser ça, il faut travailler davantage. C'est d'ailleurs, éventuellement on pourra en parler, c'est un des enjeux de la politique du gouvernement. En ce moment, elle est concentrée sur les chômeurs. Avant, elle était concentrée sur les retraités. Il y a un an, c'était la période de la réforme des retraites. Donc, il y a cette idée quand même qu'il faut travailler davantage. Concernant le carbone, il ne faut pas se tromper non plus d'outils. C'est-à-dire, là aussi, parmi les cours, on apprend le principe de Tim Bergen, un problème, un outil. Le problème du carbone, l'outil, c'est de donner un prix à cette externalité qui est le carbone. Donc ça s'appelle la taxe carbone. Au niveau européen, ça s'appelle le MACF. Et donc, je pense que la Commission européenne et les Européens, au lieu de passer leur temps à pourchasser par démagogie le chinois, le péril jaune, ça fait un siècle et demi que le péril jaune est là, que l'ouvrier chinois à 5 sous va vaincre l'ouvrier français à 5 francs. Ça fait un siècle et demi qu'on nous annonce qu'ils vont tout emporter et tout ça. Je pense que effectivement, il vaut mieux mettre un prix du carbone et dire, voilà, quel qu'il soit d'ailleurs, le prix du carbone chinois s'étant le prix du carbone européen, c'est la même chose, simplement. S'il y en a plus dans le produit chinois, eh bien, on paie un peu plus cher.
Patrick Artus, certains nous disent, c'est hypocrite de se cacher derrière des arguments écologiques pour faire en fait une politique protectionniste. Les Américains n'ont pas eu ces états d'âme avec l'IRA.
Oui, alors les Américains, enfin c'est pas vraiment du protectionnisme, c'est
officiellement
c'est de l'attractivité dopée par des baisses d'impôts des États-Unis. Bon, c'est quand même bon, on pourrait copier l'IRA. D'ailleurs, il y a des tentatives européennes de copier l'IRA. L'IRA est extrêmement efficace parce que si vous êtes éligible à l'IRA. Cette baisse d'impôts ou au Chips Act, c'est l'équivalent de l'IRA pour les semi-conducteurs. Vous avez une autorisation, enfin vous avez un engagement de l'État fédéral à baisser vos impôts au fur et à mesure que vous investirez, que vous pouvez utiliser pour financer votre projet d'investissement. Donc on a été étonné de la rapidité avec laquelle l'IRA déclenchait un rebond de l'investissement industriel dans les énergies renouvelables, dans les semi-conducteurs aux États-Unis. Mais je voudrais rejoindre Jean-Marc. Le problème particulier de la France, c'est un problème très différent de celui de l'Allemagne ou de pays d'Europe du Nord, c'est que la France est un pays très désindustrialisé. La désindustrialisation a poussé la France à ne plus former beaucoup d'ingénieurs ou de techniciens de l'industrie. Vous n'avez qu'à... Si vous enlevez les étudiants en médecine, hein, vous n'avez qu'un peu plus, de 10% des jeunes Français qui suivent des études qui aboutissent à un diplôme de technicien ou d'ingénieur pour l'industrie. Il n'y a pas de légitimité, tant qu'on n'a pas corrigé ce problème, à faire des politiques qui utilisent beaucoup d'argent public et qui vont nécessiter de l'emploi industriel en France. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut se redonner des avantages comparatifs pour l'industrie. Ça passe par la formation formation de jeunes adaptés aux métiers de l'industrie et le développement de ces formations. Ça passe par la levée des obstacles à l'industrie. Alors le gouvernement travaille sur cette levée des obstacles environnementaux ou les recours des résidents.
Et ça fonctionne. Et puis, on l'a vu avec le salon Global Industrie la semaine dernière. L'attractivité dans ce secteur commence à...
Voilà. Et puis le deuxième problème, c'est que les tenants de cette politique industrielle européenne avance la théorie de la protection des industries naissantes. Alors effectivement, si vous avez une industrie que vous voulez développer et qui est déjà développée ailleurs, vous devez la protéger initialement. Simplement, dans cette théorie, quand vous devenez suffisamment gros, vous êtes compétitif. Le problème, c'est que l'industrie, par exemple, des panneaux solaires ne sera jamais compétitive par rapport à l'industrie des panneaux solaires chinois. Et donc, ça sera un trou pour les finances publiques définitif si on fait cette réindustrialisation.
On va parler justement de réindustrialisation. Pourquoi est-ce que l'objectif de 15% du PIB pour l'industrie est trop ambitieux? C'est ce que dit un rapport qui a été commandé par le gouvernement. D'abord, une question dont je connais la réponse, puisque je connais votre position, Jean-Marc. Vous dites ça ne sert à rien de vouloir à tout prix réindustrialiser ce pays.
Oui, je pense que c'est totalement artificiel, et d'autant plus que derrière le mot réindustrialisation, il y a beaucoup de non-dits, d'ambiguïté. Il y a ceux qui veulent refaire des industries textiles, il y a ceux qui, au contraire, voient dans la réindustrialisation l'implication de la France vers les nouvelles technologies. Il y a ceux qui disent que la réindustrialisation, c'est de favoriser l'émergence de l'intelligence artificielle. Donc, il y a un problème de redéfinition de tout ça. Je pense que fondamentalement, néanmoins, derrière l'état d'esprit ambiant sur la réindustrialisation, il y a une forme de nostalgie des cheminées qui fument, du bassin industriel, d'un monde où...
Oui, mais l'industrie, Jean-Marc, ça n'est plus germinal.
Non, j'entends bien.
Aujourd'hui, ce sont des robots, des écrans.
Oui, exactement. Mais il y a quand même derrière tout ça l'idée qu'il faut refaire des emplois industriels et tout ça. Or, effectivement, je pense que l'industrie, c'est de plus en plus des robots. Et puis, il faut se spécialiser dans ces avantages comparatifs. Et la dernière remarque que je ferai par rapport aux 15%, c'est que, justement, plus il y a de robots, normalement, plus il y a de productivité, plus il y a de productivité, plus on peut baisser les prix. Et donc, une raison de la baisse de la part de l'industrie dans l'économie, c'est le fait que les prix relatifs de l'industrie ont baissé par rapport au prix relatif des services. On avait eu le même phénomène avec l'agriculture. Ce qui a fait baisser dans les années 70-80 l'agriculture, c'est dans le PIB, c'est essentiellement une baisse des prix qui était notamment voulue au travers des réformes de la PAC. Donc je pense que des objectifs en termes de part dans le PIB, c'est absurde. Des objectifs en termes de sensibilité, c'est de l'industrie, c'est bien, c'est absurde. En revanche, laisser le marché découvrir nos avantages comparatifs, je suis à fond pour.
Robin, réindustrialiser, est-ce que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, acheter des composants à l'autre bout du monde et les assembler en France ?
Non, mais c'est un travail de très long terme. L'industrie, c'est pas quelque chose qui se construit qui se déconstruit, malheureusement, on peut se déconstruire assez vite, mais c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se construire. Alors, ça veut pas dire qu'elle est pas capable de réagir à des stimulus, hein. Une des choses qui avait très bien fonctionné, c'était le suramortissement, qui avait été mis en place sous Manuel Valls, hein. Donc, on est en 2014, à peu près. On a un suramortissement. Donc, quand vous investissez, vous pouvez suramortir les investissements que vous avez faits. Donc, ça vous permet de déduire un petit peu de votre impôt sur les sociétés. Ça a très très bien marché. Après, c'est des dynamiques de très long terme. Et aujourd'hui, c'est pas en fixant des objectifs à 15-13%, ça n'a aucun sens. C'est même ridicule. Et je pense que
ce que dit ce rapport qui a été commandé par le gouvernement.
Oui, mais ça fait rire le reste du monde. Je pense que personne ne regarde pour savoir si on se fixe un objectif à 15, à 13, comme on l'a dit, dans un contexte où aujourd'hui il y a des pressions déflationnistes sur les produits industriels. C'est très compliqué de se fixer ces objectifs-là. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire sur quels produits on peut reconstruire des filières. Et j'insiste, l'objectif, c'est reconstruire des filières, construire des clusters, un petit peu ce qui a été fait sur la partie batterie à Dunkerque, où on essaye de poser, on met des gens qui sont des concurrents, on les met dans les usines à côté, parce que ça crée des effets de clusters qui sont intéressants pour la filière, mais c'est ça qu'on doit viser, et aujourd'hui on voit bien que c'est extrêmement difficile, et c'est pas en fixant des objectifs par des hauts fonctionnaires qu'on va faire de l'industrie, et l'industrie c'est fait par des chefs d'entreprise qui décident le matin de ne pas se verser de dividendes, mais d'investir dans une nouvelle machine-outil, dans un nouveau robot, de prendre ce risque-là, parce qu'ils pensent que demain, ils auront des acheteurs face à eux qui vont préférer leurs produits. Et aujourd'hui, on n'a pas ça.
Patrick, vous disiez tout à l'heure, il faut qu'elle soit attractive, il faut avoir la main-d'œuvre pour cette industrie. Sondage OpinionWay, qui il y a quelques mois, les trois quarts des élèves de première et terminale ont une bonne image de l'industrie, mais ils sont aux environs de 40% à envisager éventuellement une carrière dans l'industrie. L'image s'améliore, mais il faut du temps pour concrétiser ça en ambition professionnelle.
Oui. Mais il y a plein d'obstacles à la réindustrialisation. Alors d'abord, il y a l'image de l'industrie dans l'opinion, et vous avez raison, chez les jeunes, elle s'améliore. Il y a beaucoup d'efforts des industriels pour parler de l'industrie dans les lycées. Donc on crée un petit mouvement qui ne se voit pas vraiment encore dans la proportion de jeunes qui décident de faire des études.
Qui envoient des CV, oui.
Il y a un diplôme d'ingénieur. Mais il y a d'autres problèmes. À partir de 2016, la rupture, en réalité, la rupture européenne, c'est le long terme, mais c'est vraiment à partir de 2016-2017. L'Europe vraiment décroche complètement par rapport aux États-Unis. Et alors, cette rupture est contemporaine d'une hausse très forte des dépenses de recherche-développement aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, on dépense pratiquement deux fois plus d'argent par rapport au PIB en recherche-développement qu'en Europe. D'une hausse très forte des investissements dans les nouvelles technologies aux États-Unis. On a un rapport de 1 à 2 aussi aujourd'hui aux États-Unis. Et puis de la réforme de Trump, ce qui baisse massivement les impôts des entreprises américaines. Et alors, si vous regardez les effets en termes d'attractivité, vous savez qu'aux États-Unis, ils rentrent 6 points de PIB chaque année de capitaux à long terme de non-résidents qui s'investissent aux États-Unis, et le chiffre équivalent en Europe, c'est 0%. Donc, pour réindustrialiser l'Europe, il va falloir redonner une attractivité pour les investissements industriels en Europe.
On marque une pause. Dans un instant, on va parler des mesures d'économie du gouvernement. Clément Beaune, parlait le week-end dernier d'un concours Lépine des mesures d'économie. Les Français sont moyennement convaincus. On en parlera, c'est le résultat d'un sondage Elab. On en parle juste après la pause.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.